Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse d'être ici parce que j'aime beaucoup cette maison. Donc, pour vous parler un peu des sciences participatives, mais pas peut-être différemment de la manière dont vous l'avez abordé ce matin, puisque ça va être un peu plus scientifique que culturel. Alors, tout d'abord, en introduction, les choses que vous savez parfaitement bien, c'est que les sciences participatives existent depuis toujours. Ça, c'est clair. Les hommes ont toujours voulu regarder le ciel, les oiseaux, et parmi les oiseaux, il y a eu toute une partie de la migration des oiseaux et du comportement des oiseaux qui s'est faite grâce à aux citoyens qui ne s'appelaient pas les citoyens à l'époque, mais peu importe, regardaient les oiseaux. Donc, en fait, elle existe depuis l'Antiquité. Et les pigeons, par exemple, ont été un des exemples. On n'a toujours pas parfaitement bien compris comment revenaient les pigeons, mais les pigeons voyageurs, et en fait, les Romains les ont utilisés beaucoup en temps de guerre pour savoir ce qui se passait sur le front de guerre. Et les pigeons revenaient baguer avec des messages parce qu'ils revenaient toujours à leurs pigeonniers. Donc c'était des points qu'on comprenait. Alors ça s'est un peu stabilisé par la suite, et en particulier aux États-Unis, les premières données officielles que des bénévoles ont envoyées au gouvernement américain datent de 1880, c'était déjà de la recherche participative parce qu'elle informait sur les routes que suivaient les oiseaux migrateurs. Et donc aujourd'hui, elles ont été d'abord conservées dans les sous-sols de l'État de Virginie, et aujourd'hui elles sont numérisées et servent en plus dans la suite de cette problématique sur la migration des oiseaux, qui est devenue effectivement quelque chose d'extrêmement important quand on a eu l'aviation, parce qu'il a fallu que les avions s'accommodent des routes migratoires des oiseaux et pas l'inverse. Parce que les oiseaux ne changeaient pas de route, mais les avions, ils n'avaient pas tellement envie de collisionner les oiseaux. Il y en a qui volent très haut. Donc on a eu toute cette donnée, et cette donnée citoyenne qui est très importante et qui a été importante aux États-Unis. Alors je sais qu'ici, au Muséum d'Histoire Naturelle, vous avez un portail tout à fait spectaculaire, que j'ai d'ailleurs pas mal consulté, où vous avez tout un protocole pour travailler sur des domaines comme cela avec la science participative. Alors un deuxième exemple, c'est celui des astronomes, c'est plus ma discipline, des astronomes qui depuis plus de 5000 ans ont regardé le ciel, ont noté les étoiles, ont essayé de comprendre ce qui se passait, et donc c'est intéressant parce que ça c'est toujours actuellement. Les astronomes amateurs sont toujours une des catégories d'amateurs qui sont structurées et on en parlera tout à l'heure, qui travaillent avec les scientifiques. Et c'est ainsi que ce mélange amateur-scientifique a permis de déterminer en 1995 la première exoplanète à l'observatoire du Midi en France. C'est deux Suisses qui l'ont trouvé. Donc en fait, ce couplage entre astronomes amateurs et scientifiques est extrêmement, est toujours très cohérent et très intense. Et on essaye, nous à l'Académie des sciences, on a un château observatoire à Badia, à Hendaye, où on fait venir des classes, parce qu'il y a une méridienne, c'est-à-dire une lunette qui regarde, selon une méridienne, les étoiles qui défilent et qui les positionne l'heure à laquelle ils passent devant la méridienne. Et on fait travailler les enfants des écoles là-dessus pour leur donner le goût, justement, de cette recherche participative quand ils seront un peu plus grands ou même quand ils sont jeunes. Parce que les jeunes adorent donner des... Ils ont l'impression d'être importants quand ils donnent des renseignements. Alors donc maintenant, ça c'était pour l'introduction, donc qu'en est-il de cette recherche que l'on a cru découvrir participative? Mais c'est pas du tout ça, c'est à l'âge de l'Internet. C'est-à-dire qu'à l'âge de l'Internet, une telle recherche prend une ampleur gigantesque, ampleur qu'elle n'avait pas précédemment. Et là, il va falloir que tous ensemble, on repense à la manière dont on va gérer cette masse de données colossales qui va nous arriver par Internet. des sciences participatives. Alors c'est pour cela que l'Académie des sciences a pensé au moment du G7, c'est-à-dire quand les 7 académies des pays du G7 se sont retrouvées pour essayer de faire passer des messages à nos présidents respectifs. Alors, entendent-ils nos messages? Je ne sais pas. Parfois, on a l'impression que c'est une bouteille à la mer, mais bon, quand même, on tient bon. Et donc, on a fait tout des recommandations que je vous lirai tout à l'heure sur la recherche participative. Donc, qu'en est-il aujourd'hui à l'époque d'Internet? Alors, une recherche participative qui, je dirais, est controversée, mais qui existe et qu'on ne peut pas faire l'autruche, on ne peut pas faire l'autruche et ne pas la regarder, c'est celle qui arrive sur Wikipédia. Donc, Wikipédia, c'est un outil auquel on est obligé de regarder. Alors bien sûr, il y a des tas de choses qui ne sont pas justes, qui ne nous plaisent pas, tout ce qu'on veut, mais je crois que c'est à nous à répondre, à écrire, à corriger. Et on a tout un exemple avec ce que nous avons fait, qui est aussi une recherche participative, mais là presque sur les chercheurs, lorsqu'on a numérisé et rendu une édition critique de l'encyclopédie de Diderot, qui maintenant a un nombre de visiteurs gigantesques, puisqu'il y a eu plus de 3 millions de pages qui ont été vues depuis le début que ça a été mis en ligne, Wikipédia a parfois repris des passages de ce qu'on avait écrit dans cette édition critique de l'encyclopédie de Diderot. Donc, ce qui veut dire qu'il faut impérativement que nous regardions ce qui est écrit sur Wikipédia, parce que c'est aussi un des points qui est très utilisé par bon nombre de concitoyens. Alors maintenant, je parlerai de la manière dont je conçois, moi, personnellement, la recherche participative, et je la mettrai en 3 parties. La première, que l'on connaît tous très bien, qui est relative aux sciences d'observation. Alors, comme je vous l'ai dit, les astronomes, la biodiversité, tout ce qui concerne les sciences d'observation, mais aussi les sciences médicales. Et on a fait une journée entière avec les associations de malades à l'Académie. On a eu une journée entre chercheurs et associations de malades qui a été extrêmement bien perçue par les associations de malades et qui nous ont apporté énormément aussi, parce que les malades apportent beaucoup à la science. En particulier, on ne va plus chez le médecin en disant qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va me trouver. D'abord, on tape sur Internet, on essaye de regarder ce qu'on a, et puis on va voir le médecin et on dialogue avec le médecin. Donc le dialogue, maintenant, c'est plus je vais voir et j'attends le verdict, c'est j'essaye de trouver ce que j'ai et je vais en discuter avec le médecin. Et ça, c'est une autre, on a un changement de paradigme là-dessus. Et je crois qu'il faut revoir cette relation médecin-malade différemment, justement à cause de tout ce que l'on peut trouver et de tout ce que les citoyens ont savent sur les maladies. Alors, ils peuvent nous donner aussi des renseignements sur la manière dont évoluent les épidémies. Ça, c'est un point très important. Mais ils donnent aussi des renseignements sur les effets secondaires des médicaments. Et ça, c'est très utile. Et c'est surtout pris par l'industrie pharmaceutique. Alors, je pense que ce serait quand même aussi très bien que ce soit pris par tout le monde pour avoir des statistiques sur les effets secondaires des médicaments, qui sont évidemment quelque chose d'assez complexe, parce que un médicament a un effet bien sûr primaire sur la maladie, mais deuxièmement, il peut avoir un effet sur vous, un peu comme une allergie. Et on sait très bien que tout le monde n'est pas allergique au même produit. Il y en a qui mangent une cacahuète et qui sont morts, et d'autres peuvent en manger des kilos et ça leur fait rien. Et pareil pour les fraises. On n'est pas mort des fraises, mais enfin, donc on a ce genre de choses. Et donc il y a toute une étude statistique qu'il faut faire extrêmement précisément avec des chercheurs. Et ne pas se contenter de dire « ce médicament est mauvais pour tout le monde », c'est pas vrai, il peut être bon pour certains et mauvais pour d'autres. Donc avec cette recherche participative, on peut avancer dans une médecine beaucoup plus personnalisée, avec des statistiques, mais aussi une personnalisation des médicaments. Donc ça, c'est un des points importants. Donc ça, c'est pour la première partie, qui est la partie, je dirais, d'observation. Vous observez, vous prenez un médicament, vous observez que ça vous fait du bien ou ça vous, peut vous faire aussi un peu de mal. Bon. La deuxième, le deuxième groupe au niveau des sciences citoyennes, c'est un groupe qui est, au fond, assez dangereux. Je dois appuyer sur un bouton, là. Bon, je vais essayer de ne pas le mettre. Qui est les problèmes des concours informatiques, c'est-à-dire qu'en anglais, ce qu'on appelle les contests, qui sont utilisés par les GAFAM. Et ça nous pose un problème à tous. C'est la chose suivante, c'est-à-dire que lorsqu'un groupe, par exemple Google ou Amazon, a envie de perfectionner son logiciel ou ses logiciels, il ne forme pas des informaticiens, il en a bien sûr, les groupes en ont, mais ils vont plutôt sur la méthode concours, et ça, ça vient des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils demandent à l'ensemble des informaticiens du monde entier de répondre à un concours pour savoir quel est le logiciel qui est le mieux, le plus adapté, et en posant des questions. Alors, évidemment, il y a ce concours, et puis il y a un lauréat ou deux lauréats qui gagnent de l'argent. Mais quand on regarde le rapport de l'argent qui est donné à la personne en question, qui peut être d'ailleurs assez important, par rapport à la formation qu'a coûté à l'État ou à une structure donnée la formation de l'ingénieur, on se rend compte qu'il y a un gros gap. Et donc ça pose un problème éthique de ce genre de concours qui est aussi une sorte de recherche participative, parce qu'au fond, ça fait progresser quand même la science. Donc on ne peut pas se dire c'est négligeable, on va chercher les meilleurs pour répondre à la question. Donc ça a un côté positif, mais et puis c'est pas toujours ceux qui ont été formés dans certaines écoles qui vont répondre le mieux. Donc ça a un côté très positif, mais d'un autre côté, économiquement, ça pose un problème. Et ça, cette question, c'est une question à laquelle il va falloir quand même commencer à réfléchir un peu plus sérieusement, parce que ça prend une des proportions importantes. Et puis la troisième partie, alors c'est à mon avis, c'est celle qui est la plus embêtante, la plus dangereuse, c'est celle qui nous vient encore des États-Unis, qui s'appelle « Do it yourself », D-O-Y, et qui est la recherche qui peut se faire très facilement dans votre garage ou partout, parce que ce n'est pas de la recherche qui nécessite de matériel sophistiqué. Donc effectivement, toute la recherche, je dirais, scientifique qui nécessite du matériel sophistiqué se fait dans les laboratoires, et là, quand vous allez autour des grands instruments comme le CERN ou dans des observatoires pour au niveau des ça, bien sûr, là, vous êtes en milieu scientifique et avec des règles que l'on a définies et qui sont parfaitement claires. Vous avez de la recherche qui est une recherche qui nécessite des appareillages moins compliqués, mais quand même assez sophistiqués, et donc qui se fait dans les laboratoires. Et puis, vous avez de la recherche qui nécessite des appareillages extraordinairement simples. Et la question alors c'était dans le cadre de la chimie, on pouvait faire des expériences qui parfois pouvaient faire sauter la maison, mais enfin ça s'arrêtait à la maison, après tout c'était embêtant, mais pas catastrophique pour l'humanité. Sauf que maintenant, en biologie, avec ce qu'on sait faire sur la manipulation génétique, et surtout sur les ciseaux génétiques, on est capable de faire des modifications génétiques de manière extraordinairement simple, avec très peu de moyens. Et donc, n'importe qui peut le faire. Et ça pose un problème inquiétant, parce que si vous touchez aux cellules somatiques, c'est-à-dire à celles qui vous concernent, vous allez vous transformer, et puis tant pis pour vous. Mais si vous touchez aux cellules germinales, c'est-à-dire aux embryons, ou aux ovocytes ou aux spermatozoïdes, là, vous pouvez entraîner une déviance, une dérive énorme sur l'évolution humaine. Et ça, sur l'évolution humaine, c'est catastrophique. Même sur l'évolution animale, c'est embêtant. Donc, il va falloir mettre des règles à cette recherche participative qui peut avoir des bons côtés, mais pour lesquels il faudra quand même structurer cet ensemble. Et donc, c'est vraiment le point sur lequel je pense qu'il faut réfléchir tous ensemble, c'est-à-dire comment normaliser ces recherches participatives. C'est sur ce point qu'on a plus ou enfin, je dirais même plus que moins essayé d'alerter et de dire ce que nous pensions quand on a fait des recommandations dans la déclaration qu'on a faite sur les sciences participatives à l'heure de l'Internet. C'est-à-dire, alors je vais vous lire les quelques points de recommandation. On a mis premièrement repenser l'enseignement scientifique afin qu'il permette aux élèves, aux étudiants d'entreprendre plus tard des recherches scientifiques et qu'elles soient dans un cadre professionnel ou citoyen. D'identifier des mesures permettant à la science citoyenne d'éviter ou d'atténuer d'éventuels écarts aux règles éthiques, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ou des risques en matière de sécurité, ça c'est même très important. De promouvoir, et ça on pense que pour nous c'est un point important, le co-développement de la science citoyenne et de la recherche menée en laboratoire. Et je pense que c'est un des points sur lesquels, ici au Muséum d'Histoire Naturelle, vous êtes très attachés. Et ça, c'est un des points clés, je pense, de la réussite et de la façon dont on pourra utiliser dans l'avenir cette recherche participative. Après, on a mis permettre aux praticiens de la science citoyenne d'adopter la culture existante en matière de communication et d'évaluation de leurs contributions scientifiques. Alors ça, c'est un sujet qui est important parce que effectivement, vous avez des gens qui font des découvertes et tout d'un coup, vous voyez des journaux qui racontent des choses dessus, puis qui dérivent et puis après, c'est n'importe quoi, c'est pas contrôlé, enfin bon. Donc c'est un des points aussi importants de savoir éviter le showbiz en science. Donc ensuite de créer des programmes de financement spécifiques pour la science citoyenne, ça nous semble important, et de promouvoir des systèmes d'information permettant de documenter les thèmes et les résultats de la science citoyenne. Voilà un peu les recommandations qu'on a faites en matière de normalisation de la recherche participative. Et je vais m'arrêter là et j'attends vos questions. Alors, vos questions vont s'afficher sur l'écran. Ah bon, c'est dommage parce que vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle Klaxoon, qui est très bien.
On a le même système, mais ça s'affiche pas tout à fait sur l'écran.
Bah donc, vous voyez.
Ah.
Enfin, vous pouvez aussi lever la main. Hein.
On va commencer par la question. Voilà, là où
alors, une des questions, c'était pouvez-vous nous expliquer les enjeux et les attentes de la note qui a été demandée pour le G7 sur les sciences participatives?
Expliquer les enjeux
et les attentes de cette note. Vous avez parlé de votre implication pour le G7.
Ben, les enjeux, je vous les ai dit. Les attentes, on espère que les gouvernements respectifs des 7 pays vont comprendre ce que c'est que la recherche participative et ne vont pas croire que c'est simplement des gens qui répondent quand ils veulent et où ils veulent à des questions, que c'est pas si simple que tout ça en a l'air. Voilà, que ça doit être organisé correctement avec le milieu scientifique.
Il y avait d'autres messages, mais ce n'était pas vraiment des questions. C'était une remarque.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va prendre une ou deux questions avant de...
Oui.
Des questions courtes, mais pas des... Voilà.
Oui, oui, très bien. Alors, là, vous posez une question vraiment importante. Je pourrais parler pendant une heure là-dessus, mais je ne vais pas le faire. Je dirais qu'il y a deux types de recherche. Il y a la recherche pour la connaissance, et celle-là, comme la science est cumulative, c'est-à-dire qu'on doit, pour avancer dans la connaissance, il faut qu'on ait appris tout ce qui était précédemment trouvé. Ça ne peut se faire qu'en milieu scientifique, je vois difficilement, ou alors c'est un scientifique qui s'ignore. Enfin, c'est possible aussi, ça, de toute façon. Donc, c'est comme ça. Ensuite, on a la recherche pour la société, et là, effectivement, comme on ne peut pas chercher dans tous les domaines, on a des demandes auxquelles il faut tenir compte, qui viennent des citoyens. Et effectivement, des citoyens qui ont commencé à réfléchir aux observations ou aux questions qu'ils se posaient ont souvent des points pertinents et des orientations pertinentes à faire. Donc je distinguerais bien les deux parties, une partie qui est vraiment une partie de front de la connaissance pour la connaissance et puis de la connaissance pour la société. Et celle-là, effectivement, on peut définir ensemble des sujets à développer.